les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Bonjour Alain Forest.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Suite à la sortie de cet ouvrage « Nous sommes tous des Roms tziganes », une présentation publique a eu lieu, je crois, le jeudi 17 octobre dernier au point de bascule de ce livre, paru aux éditions Mélibé, dont le titre est qualifié de provocateur dans le communiqué de presse qui l'accompagne. J'imagine qu'au-delà de la provocation, il y a peut-être un fond de vérité aussi dans ce titre. Nous sommes tous des Roms tziganes. Pourquoi l'avoir choisi ?
En effet, l'actualité montre que c'est hélas un problème qui devient majeur pour la société française, qui est quand même assez extraordinaire d'imaginer que 20 000 personnes au maximum en France en ce moment aujourd'hui peut mobiliser autant d'hommes politiques, de médias, etc. pour des polémiques invraisemblables. Donc, alors ce titre-là. La difficulté quand on aborde la question générale des Roms, des Tziganes, etc., c'est déjà de trouver un nom. Parce que tous les spécialistes vous disent que leur dénomination est un problème majeur, puisque c'est nous-mêmes, les noms Tziganes, Roms, Manouches, Gitans, Sinti, etc., c'est-à-dire les noms Tziganes, pour être clair, hein, c'est nous qui définissons leur nom, et pas eux. Le seul terme qui est, admis maintenant à l'échelon international d'une part, et puis de la part de ce peuple lui-même dans sa très grande diversité, qui notamment se manifeste par leur dénomination variable, c'est un congrès en 1973 à Londres, qui a regroupé un certain nombre de ces personnes, ces représentants de cette origine tzigane, et qui a défini un petit peu qui ils étaient en termes de dénomination. Donc ils se sont appelés Roms. Le terme Rome en langue romanique, et la langue d'origine de ce peuple, veut dire homme. Et il y a d'un côté les Roms et de l'autre côté les non-Roms, et les non-Roms c'est nous, qu'on appelle Gadjé, Gadji, Gadjo, etc. Alors, donc le mot Rome aujourd'hui est un terme générique qui est un type à peu près reconnu comme représentatif, avec encore pas mal de guillemets, de parenthèses, et qui notamment est reconnu de cette fête-là par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, etc. D'ailleurs, il y a une rencontre en ce moment même à la Villa Méditerranée sur le thème des cultures roms, organisé par le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, enfin disons. Donc c'est ce terme qui permet de globaliser un petit peu. Alors pourquoi rajouter tzigane ? Eh bien parce que le mot tzigane a une connotation un peu plus large, je vais dire un peu plus traditionnelle, historique, à la fois en termes de représentation culturel, notamment les musiques tziganes, enfin, mais aussi le peuple tzigane, enfin bon, et il a plutôt une connotation, j'allais dire, en France, ça veut dire quelque chose, quoi. Et notamment, ça regroupe non seulement ceux que, entre guillemets, depuis quelques semaines, on commence à connaître, hélas, un peu mieux, peut-être heureusement d'ailleurs, et qui sont ces Roms venant des pays Hongrie, Yougoslavie, Roumanie, etc., et que nous, on désigne sous le terme de migrants, hein, c'est une nouvelle migration, et puis qui viennent s'ajouter à ce qu'on appelle depuis déjà quelques siècles les tziganes en France. Alors on les appelle aussi gitans, manouches, etc., qui sont français, qui représentent 500 000 personnes environ, et qui sont sédentaires ou pas, voyageurs ou pas, etc. Donc ce livre a comme objectif d'essayer de faire le lien entre les deux, ce qui est un équilibre délicat parfois.
Oui, puisque comme vous venez de le dire, hein, entre les lignes, ce terme ou ces termes regroupent des réalités alors, sociales évidemment, mais aussi et surtout culturelles, complètement différentes, des gens qui viennent de pays différents, qui parlent des langues différentes, qui ont des pratiques aussi culturelles, enfin, qui définissent leurs identités, on va dire, pour utiliser un mot aussi à la mode, différentes. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il y a le consensus existe aussi autour de l'autre côté, autour de ces termes Roms tziganes, c'est-à-dire chez les Roms tziganes, ce que nous appelons ainsi, est-ce qu'il y a une forme de sentiment d'appartenance à un continuum culturel ou est-ce que ou pas du tout?
Absolument. Et la bonne preuve, c'est que, notamment dans le cadre de Marseille 2013, on a vu se réunir toute une série d'experts internationaux, dont des experts roms, hein, sur la question de la culture rome. on pourrait peut-être dire des cultures, mais globalement de la culture rom. Donc ce terme culture, disons appartenant à un certain nombre de groupes sociaux à travers le monde, est une réalité extrêmement vivante. Hein? Alors c'est une réalité qui s'exprime à la fois par les modalités traditionnelles de l'expression culturelle, hein, c'est-à-dire la musique, la danse, la langue, puisqu'il y a une langue commune qui s'appelle le romanès et qui était encore récemment parlée assez largement et qui est de plus en plus maintenant en voie de renouvellement. Hein, donc il y a d'un peu partout maintenant des personnes qui apprennent, il y a des endroits où on apprend le romanais, etc. Bon. Donc il y a une langue, il y a bien entendu des capacités d'expression à la fois musicale, à travers la danse, à travers le flamenco, à travers toute une série d'éléments qui font ce qu'on pourrait dire l'unité culturelle extérieure, apparente, et qui, disons, même si elle a été souvent phagocytée, j'allais dire, à récupérer par les non-tziganes, je pense au flamenco par exemple, mais aussi à la musique hongroise et tous les grands auteurs hongrois de musique qui ont récupéré l'ensemble des traditions, c'est une réalité évidente en termes d'expression culturelle, mais en allant un peu au-delà. Et c'était intéressant parce que hier, notamment dans ce fameux débat sur les cultures tziganes organisées par l'Union européenne, il y en aura d'autres, mais celui-là était intéressant, il y avait deux ou trois représentants de cette communauté. L'un se disait Manouche, ou Manouche comme on dit, il venait de Strasbourg, l'autre était plutôt yéniche, enfin bon, et chacun exposait à leur manière les caractéristiques qui leur faisaient appartenir à ce peuple, dans sa très grande diversité. Et c'était pas seulement la question de la musique, de l'expression classique, culturelle, des arts de la rue, on va dire, ou pas de la rue, hein, disons l'expression artistique classique, mais aussi un certain nombre de façons de vivre, de comportements, de valeurs, entre guillemets, qui, même à travers la très grande diversité de leur diaspora, représentent des éléments communs. Alors, on va dire que certains s'en sont beaucoup éloignés. Hein, ils parlent plus la langue, ils vivent comme vous et moi, ils ont la télé, ils ont le... Voilà. Donc, mais ceci étant, y a cet élément de façon de vivre, de mode de vie, qu'on parfois on caractérise par le nomadisme, qui n'est pas tout à fait les éléments justes. Mais par contre, l'un des mots employés hier par cette personne, c'est le terme « liberté ». Et c'est un petit peu ce que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de, collectivement, quel que soit le lieu, quelles que soient leurs histoires récentes ou plus anciennes, se recherche de la liberté, liberté d'aller et de venir, liberté de ne pas dépendre d'un patron, liberté de, entre guillemets, de choisir le lieu où on va vivre, son mode de vie, etc. Tout ça, c'est, j'allais dire, une des caractéristiques qui n'est pas spécifique au peuple tzigane, qu'on souhaiterait avoir tous, mais qu'ils essayent de mettre en pratique. Alors, ce qui, donc, crée toute une série de problèmes par rapport aux législations, par rapport à, disons, aux sociétés ancrées dans la réalité du droit commun, etc. We'll be right back.
Rhinfou reste alors cette forme d'unité au moins extérieure, qui se définit d'ailleurs par rapport à l'extérieur. Vous parliez de cette notion de liberté qui se définit en effet par rapport aussi aux habitudes et aux pratiques culturelles de ce qu'on pourrait définir comme une classe moyenne, aux habitudes un peu bourgeoises qui, on va pas là non plus généraliser, mais qui s'étend maintenant sur tout le territoire européen.
Et mondial, dans le monde entier.
Elle explique en partie la stigmatisation dont ces populations, au fond assez diverses, font l'objet, et une stigmatisation qui ne va pas sans schématisation d'ailleurs.
L'affaire est assez complexe, que j'essaye en effet de décrire, parce que tout ça c'est avec un certain nombre de... à la suite de l'expérience que j'ai depuis maintenant une douzaine d'années, avec toute une série d'équipes autour de nous, là, dans le cadre de l'association Rencontre Cigane. D'ailleurs, ce travail, c'est un travail collectif, hein. J'en rends compte parce que j'ai pris un peu de temps. J'ai maintenant l'âge d'avoir une deuxième retraite, donc de me permettre d'avoir écrit et résumé ce que nous avons vécu ensemble. Alors, cette question sur, les stigmatisations, on pourrait l'analyser à deux niveaux. D'abord, il y a un niveau historique, hein. De tout temps, c'est-à-dire depuis pratiquement l'origine qu'on essaye de découvrir maintenant, qu'on finit par découvrir à travers un certain nombre de recherches, des évolutions qui viennent de l'Inde, des mouvements d'hommes et de femmes. Bon, cette stigmatisation, elle est quasi générale dans le monde entier, quel que soit l'endroit où ils arrivent, hein, où ils s'installent. Alors, elle est liée probablement, on peut trouver des tas de raisons, moi j'en ai une ou deux, justement, peut-être ce problème de cette soif de liberté qu'on leur jalouse peut-être parfois.
Ce mépris des frontières, peut-être aussi.
Voilà. Plus de frontières, bien entendu, on va, on vient, etc. Bon. Mais en réalité, c'est plus, je dirais, le conflit entre le sédentaire, celui qui s'est attaché à une terre, celui qui s'est attaché parce que, peut-être avec beaucoup d'efforts, il s'est installé, il a une situation, etc., avec celui qui passe, qui va, qui vient. Même si, en réalité, ce va-et-vient est en train de se réduire. Hein, mais l'autre qui vient de l'extérieur, hein, qui passe, qu'on ne connaît pas, qui parle une autre langue, en gros, c'est la phobie de l'étranger, de l'inconnu, de celui-là qui... Avec en plus cette capacité des Tziganes d'avoir une vie collective de solidarité tout à fait exceptionnelle, à la fois au niveau familial, et cette richesse de leur qualité, de leur capacité de vivre ensemble malgré l'adversité, est un phénomène qui conduit parfois à les faire se replier sur eux-mêmes, et nous aussi. C'est-à-dire que cette infime petite minorité à travers le monde à la capacité de nous faire peur, voilà, on va dire comme ça, faire peur pour nos biens. Ouh là là, mon Dieu, hein, voilà le gitan qui arrive, voilà le manouche qui arrive dans notre village, et oula, vite garons les enfants, vite garons le linge, etc., et nos poules, hein, on voit. Et cette analyse là, elle est historiquement répandue à travers le monde. C'est extraordinaire. Alors moi, j'en verse la charge de la preuve, pour ne dire autrement. La question n'est plus celle de savoir si ces hommes, ces femmes, ces enfants sont à même de vivre comme nous et comme vous et moi. Hein. La question est de savoir si c'est nous qui avons la capacité de revenir sur nos stéréotypes, sur nos phobies, sur nos interrogations quant à notre avenir, nos inquiétudes, notre peur de demain, et d'accepter qu'à côté de nous, il y ait des personnes qui vivent un petit peu différemment. Donc dans ce livre, je tente d'inverser. Le problème, ce n'est pas celui des Roms, des Gitans, des Tziganes, quelle que soit leur situation, quelle que soit la manière dont ils vivent. Ça, c'est notre question à nous. Hein. Comment des sociétés développées, pas seulement la France, mais toute l'Europe, et pourquoi pas les États-Unis, l'Australie, etc., il y a des Tziganes qui sont installés en Palestine, qui sont installés en Irak, qui sont dans le monde entier, on en redécouvre. Alors, évidemment, la majorité d'entre eux est plutôt en Europe, et plutôt en Europe ex de l'Est, on va dire. Hein. Mais cette capacité qu'ils ont à nous faire peur est quand même assez inquiétante, et elle est généralisée.
Et révélatrice.
Alors, c'est vrai qu'on a les éléments de ces derniers mois, et notamment pour remonter un peu en arrière, le fameux discours de Grenoble, du président de la République Sarkozy en 2010, a assuré d'abord une espèce d'amalgame général et les a ciblés comme étant en gros les boucs émissaires. Toute société à un moment donné qui a des inquiétudes par rapport à son avenir cherche des boucs émissaires. Eh bien, celui-là, il est généralisé partout en France, partout dans le monde. Hein. Il y a un problème qui ne va pas, c'est forcément à cause des gitans, des roms, des voisins qui arrivent et qui vont disparaître, qui vont partir forcément, puisqu'ils ne peuvent pas rester là, ils ne sont pas comme nous. Hein. Et donc, cette idée-là qui consiste à essayer de mettre, une stigmatisation sur une catégorie elle-même extrêmement diverse, parce que quand Sarkozy a expliqué qu'il fallait expulser tous les camps les camps illégaux, ça s'adressait a priori, en principe, aux camps, entre guillemets, l'espèce de bidonville de Roms, les quelques milliers de familles roms qui arrivent chassées par la misère, chassées par la xénophobie dans leur pays ou par la guerre, comme pour la Yougoslavie, et qui se retrouvent évidemment au milieu de nous dans des conditions effroyables, hein, certes parfois illégales, mais je dirais aussi de point de vue humanitaire absolument scandaleuse, on est incapable de leur trouver le minimum de droits, etc. Donc, l'amalgame a été fait avec les autres, entre guillemets, français depuis quelquefois. Tiens, j'entendais hier le premier groupe de gitans, alors on va appeler ce terme-là, manouche, tziganes, est arrivé en 1410 en France. 1410. Donc ils sont pour la plupart plus français que vous et moi.
Voire européens avant l'heure aussi, avec ce statut de migrant dans une Europe supposée ouverte, finalement, voilà. On ferait peut-être des européens.
Exactement.
Un exemple à suivre, peut-être.
Le Conseil de l'Europe considère que c'est le premier peuple européen qui représente 10 à 12 millions de personnes à travers simplement l'Europe, hein, et qui ont donc, qui sont, alors évidemment c'est un peuple sans terre, mais est-ce qu'on démontre qu'on peut être un peuple sans terre, mais en ayant une histoire, en ayant une langue, en ayant des façons de vivre communes, avec une grande diversité entre les uns et les autres. Alors cette espèce d'hostilité gravissime qui s'est manifestée entre autres ces derniers mois, mais je veux dire, l'origine elle vient de là, des responsables politiques qui malheureusement, après le changement de gouvernement, n'ont pas changé la donne. Hein. On a entendu, et on entend encore par le ministre de l'Intérieur, le même discours que l'ancien ministre de l'Intérieur sur ces questions-là, qui est un discours à la fois imbécile, j'allais dire, parce que c'est nier la réalité et ça ne résout aucun des problèmes qui sont posés par ces quelques milliers de familles, ça ne fait qu'aggraver la xénophobie ambiante, et qu'à partir du moment où ce sont les chefs qui, à la télé, disent « ces Roms-là, ils sont absolument incapables de vivre comme nous, il faut les renvoyer chez eux », eh ben, la majorité des gens qui n'ignorent la réalité. Et c'est l'un des objectifs de ce bouquin, que je tente, encore une fois, avec beaucoup de modestie, après beaucoup d'autres, écrivains, sociologues, etc., d'essayer de résumer, c'est de montrer notre ignorance collective sur qui ils sont. Qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs façons de vivre, etc., en essayant de montrer que finalement, ils sont parfaitement fréquentables, même plus que ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Vous avez dit que j'ai présenté ce livre la semaine dernière, il y a 15 jours à Marseille, mais vendredi dernier à Paris, dans une organisation qui s'appelle la FNASAT, Fédération Nationale des Associations de Tziganes. J'ai présenté ça aussi de la même manière. On était une cinquantaine de personnes sympathiques, des gens un peu connus, comme Henri Leclerc, qui sont des amis de la Ligue des Droits de l'Homme, ou Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre, etc., ou Médecins du Monde. Enfin, j'étais bien entouré, mais surtout entouré de deux personnes, deux qui sont devenus des amis depuis longtemps maintenant. Il y avait Georgette, qui est une femme d'origine manouche et qui continue à vivre en caravane, à aller sur les marchés, qui est dans la région, et sa fille, qui m'entourait. Et je trouve que là, on a vraiment montré les uns comme les autres cette capacité. Ben, non seulement de dialoguer, mais de vivre ensemble. Elle nous a expliqué, mais qu'est-ce qui est différent entre vous et moi ? Je sais plus très bien, moi, vous savez, moi, hein, ma fille, mon fils, il a un ordinateur, moi j'ai un téléphone portable, ben, quand je vais faire les courses, je fais comme vous et moi. Quelquefois, j'ai des problèmes avec mes cartes d'identité, alors parce que j'ai pas de carte d'identité, enfin, pas encore, voilà. Enfin, mais moi, j'ai envie aussi d'être une citoyenne comme tout le monde, sauf que je suis traité comme une citoyenne de deuxième zone. Il y a des lois particulières pour les tziganes en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde est égal en principe vis-à-vis de la loi. Eh ben non. Et là, on est dans un contexte extrêmement inquiétant. Je reviens sur ce que je disais à propos du ministre de l'Intérieur. voilà déjà 2 ans que les lois spécifiques, illégales, contraires au Conseil constitutionnel, contraires au droit européen, sont appliquées pour ces familles et qu'on envisage de les remettre à plat, de revenir à zéro, de les redonner leur citoyenneté à part entière. Vous savez qu'ils ne peuvent pas voter comme vous et moi, ils sont obligés d'avoir des carnets de circulation, enfin, toute une série de choses absolument aberrantes au XXIe siècle et qui date du début du siècle dernier, 1912, la première loi qui les a mis comme ça à part. Eh bien, ce que nous espérions tous, c'est que le nouveau gouvernement allait mettre ça en place, il y a eu des projets de loi, etc. Eh bien, tout ça est reporté encore d'un an, de 2 ans, parce qu'il y a les élections municipales, que les maires ne veulent pas entendre parler, de gauche comme de droite d'ailleurs, encore une fois, de la présence de ces familles. Dans notre département, on est dans une situation dramatique. Je reviens sur la question des Roms, d'abord parce que les Roms migrants, un seul maire, et je tiens à lui rendre hommage ici, a compris la réalité humaine, sociale de ces familles, a accepté de les accueillir à Gardanne. Monsieur May, parce que sa population au départ était très hostile. Il y a eu des associations comme la nôtre, comme le CCFD, comme Médecins du Monde, qui ont entouré ces familles. Et on a réussi, là, à ce que, 180 personnes, à peu près, puissent vivre à peu près normalement. Les enfants vont à l'école, etc. C'est le seul, dans tout le département des Bouches-du-Rhône et presque de toute la région. Tous les autres saignettes, on les chasse, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, etc. Peu importe, ils n'ont pas le droit d'être ici, allez-vous-en. Ça, c'est pour les Roms migrants, à la limite. On va dire, c'est la mentalité de la majorité des Français. Ils ne savent pas donc d'où viennent ces gens-là. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Bon, quand on connaît l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Mais exactement le même débat, se joue dans notre région aussi avec nos fameux 500 000 gitans, tziganes, manouches, français depuis 1410. Bon, ces gens-là, beaucoup ne voyagent plus parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Parce que ça coûte cher de voyager. Parce que le nomadisme, ce n'est pas forcément leur souhait. Ils veulent mettre les enfants à l'école, etc. Et bien, de la même manière, ils sont encore une fois chassés de partout. On a des communes pas très loin d'ici. Je ne veux pas citer de nom parce que le maire, il se retrouvera. Pas loin de la Durance. Un monsieur qui a eu des grandes responsabilités politiques et qui risque d'en avoir encore s'il se fait réélire. Eh bien, il y a dans sa commune des familles qui sont là depuis 40 ans, qui vivent dans des conditions pas satisfaisantes du tout, en caravane, dans des mobilhomes, etc. Et il a décidé de les chasser parce que, soi-disant, le terrain est inondable. 50 ans. J'ai vu ce monsieur, ce grand-père, qui est là, on est allé les rencontrer, etc. Eh bien, un jour, le maire a dit, allez-vous-en tous, vous n'avez rien à faire ici, etc. Il n'a même pas, dans sa commune, un terrain d'accueil pour les gens du voyage. Et de toute façon, il leur dit, mais de toute façon, vous n'êtes plus voyageurs, allez-vous-en, je ne veux pas savoir, etc. Donc ça, c'est totalement contraire au droit, contraire au minimum de droits. Et d'ailleurs, au niveau européen, il y a, pour la troisième fois en quelques mois, Madame Reding, qui défend les droits de l'homme, commissaire aux droits de l'homme, a une fois de plus encore accusé la France d'aujourd'hui, la France d'hier de Sarkozy, certes, mais la France d'aujourd'hui, de la même manière, est mise au banc de l'Union européenne pour les multiples erreurs, les multiples, comment dirais-je, exactions qu'ils commettent vis-à-vis des Roms comme des Tziganes français.
Merci beaucoup Alain Forest, on sent que ce sujet vous passionne et ce livre est salutaire, nous le pensons. Nous sommes tous des Roms tziganes, paru aux éditions Mélibé par Alain Forest, militant de l'association Rencontre Tziganes.
On le trouve dans les librairies à Marseille et aussi sur Amazon, mais enfin disons d'abord aller voir les libraires et demander-les qui commandent ce livre.
Si vous voulez mieux comprendre le nœud de cette problématique qui nous concerne tous, merci Alain Forest.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.